Choix Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 27 mai 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, multiplication des attaques attribuées à des djihadistes. Une cinquantaine de civils tués mercredi dans l'Est.
Au Sénégal, le ministre de la Santé a été limogé par le président Sall après la mort de 11 bébés dans un hôpital de Tiwawa.
La RDC accuse le Rwanda de complicité avec les rebelles du M23, ce que Kigali a une nouvelle fois démenti jeudi.
Ici aux États-Unis, après la tuerie dans une école du Texas, la police est sous le feu des critiques, soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir.
Violent combat dans le Donbass en Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, au moins 50 civils qui fuyaient leur village dans l'est du pays ont été interceptés et tués par des hommes armés non identifiés. Cette attaque, perpétrée mercredi contre la commune de Madjouari, est la plus sanglante depuis celle qui, il y a près d'un an, avait fait 132 morts à Solon dans le nord-est. Bagassi Koura fait le point.
Le gouverneur de la région de l'Est Burkinabé, dans un communiqué, explique que des habitants de Madjouari, sous la menace terroriste, tentaient de rejoindre Nadiagou dans la commune de Pama. Ils ont été pris pour cible mercredi aux environs du pont Sengou par des individus armés non identifiés. Le gouverneur souligne que ce bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes tuées. Mais des habitants de la localité, joints par VOA Afrique, parlent d'un bilan plus lourd. L'attaque a eu lieu dans une zone de l'Est contrôlée par des groupes armés depuis des années. Comme d'autres communes du Nord et de l'Est du Burkina Faso, telles que Djibo et Titao, celle de Madjouari a été placée sous blocus par les djihadistes qui frappent de ces régions. Le 14 mai, une attaque terroriste perpétrée contre des populations civiles y avait fait 17 décès et 7 blessés. Et le 19 mai, une attaque contre le détachement militaire de Madjouari a coûté la vie à 11 militaires et fait 20 autres blessés. Cette nouvelle tuerie fait suite aux révélations mercredi qu'au moins 63 civils avaient été tués dans des attaques qui ont visé dimanche deux villages du nord du pays. Le 24 janvier, des militaires avaient avancé l'argument de l'insécurité pour s'emparer du pouvoir. Depuis, la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée au Burkina Faso.
Le président du Sénégal, Macky Sall, a limogé son ministre de la Santé hier, au lendemain de l'incendie qui a causé la mort de 11 bébés dans un hôpital public de Tiwawan. Ce drame, provoqué par un court-circuit selon les premières informations, a semé détresse, consternation et colère parmi les proches et dans l'opinion. C'est le dernier en date à mettre en lumière les carences du système de santé du pays. Nous retrouverons Seydina Abagay en seconde partie de cette édition.
Au Mali, rare sortie de l'imam Mahmoud Diko, grande figure du pays. Il s'en est pris jeudi à ce qu'il appelait l'arrogance des militaires au pouvoir, en même temps qu'à l'orgueil de la communauté internationale, au moment où l'une et l'autre sont en plein bras de fer.
Le peuple malien est pris en otage entre les deux et est en train de mourir à petit feu sous l'effet de la propagation djihadiste et des pénuries provoquées notamment par les sanctions internationales, a dit l'imam Diko.
L'imam Diko prenait la parole alors que la junte fait front face aux pressions d'une partie de la communauté internationale pour rendre les commandes du pays en crise à des civils élus après avoir révoqué son engagement initial à le faire en février 2022. Des tractations sont toujours en cours et les dirigeants de la CEDEAO doivent tenir un sommet sur le Mali et d'autres sujets le 4 juin à Accra, au Ghana.
Au Niger, un Soudanais a été tué et deux agents des forces de sécurité nigériennes blessés mercredi lors d'une violente manifestation des demandeurs d'asile dans le centre de l'ONU à Agadez, la grande ville du Nord. Le point avec Rosine Mounezero.
Quelques 1400 Soudanais vivent depuis 2017 dans ce centre de demandeurs d'asile situé à une dizaine de kilomètres d'Agadez. Mercredi, ils ont manifesté et on déplore 2 blessés du côté des forces de sécurité et 1 mort du côté des demandeurs d'asile, a déclaré Abdourahmane Touraoua, le maire d'Agadez. On ignore encore les causes de la manifestation et les circonstances de la mort du demandeur d'asile soudanais. Entre décembre 2019 et janvier 2020, ils avaient manifesté pendant plusieurs jours devant le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés à Agadez, exigeant l'accélération du traitement de leur demande de statut de réfugiés et leur acheminement vers l'Europe. Quelques 335 demandeurs d'asile avaient alors été arrêtés et placés en détention préventive. En février 2020, une centaine d'entre eux avaient été condamnés de 6 à 12 mois de prison. Des centaines de réfugiés vivant à Niamey ont pu être réinstallés en Europe.
Kinshasa accuse le Rwanda de complicité avec les rebelles du M23, ce que Kigali a une nouvelle fois démenti hier. La tension monte à Goma depuis que les combats entre les rebelles et l'armée congolaise se sont rapprochés du chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est explosif de la RDC. Claire Morin-Gibourg.
Des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu le M23 de la part du Rwanda, a déclaré mercredi soir le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, au sortir d'une réunion de crise autour du Premier ministre. Au même moment, à Malabo, où étaient réunis les ministres des Affaires étrangères en prélude à 2 sommets de l'Union africaine prévus en fin de semaine en Guinée équatoriale, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, n'a pas mâché ses mots. Le Rwanda, je le dis sans hésitation, a attaqué le camp de Rumangabo, importante base des forces armées de RDC, à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Selon des sources locales, des combats se sont poursuivis hier aux abords de ce camp qui abrite le quartier général du parc national des Virunga, célèbre pour ses gorilles de montagne. L'armée congolaise a déclaré avoir demandé une enquête au mécanisme de vérification conjoint élargi, un organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la police était sous le feu des critiques hier au Texas, soupçonnée d'avoir mis trop de temps à intervenir dans l'école d'Uvalde où un adolescent de 18 ans a tué 19 enfants et 2 enseignantes mardi. Lors d'une conférence de presse, un responsable des forces de l'ordre accusé de passivité a essuyé un barrage de questions de la presse sans répondre à de nombreuses d'entre elles sur le déroulé exact de la tuerie.
La Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden et son épouse Jill se rendront dimanche sur place pour partager le deuil de la communauté de cette petite ville du Texas, bouleversée par l'un des pires massacres par arme à feu des dernières années dans le pays.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de pratiquer un génocide dans le Donbass, dans l'est du pays où la ville de Severodonetsk subissait un déluge de bombes. Les forces russes ont également bombardé jeudi Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est du pays, qui avait retrouvé un semblant de vie normale ces dernières semaines.
Le président russe Vladimir Poutine s'est dit jeudi prêt à aider le monde à surmonter la crise alimentaire provoquée par le blocage de céréales ukrainiennes et russes en raison du conflit en cours, sous réserve d'une levée des sanctions contre Moscou.
Afin de tenter de contourner le blocus, l'Allemagne a mis sur pied un pont ferroviaire avec l'Ukraine pour aider Kiev à exporter ses céréales, a indiqué le prochain chef des forces armées américaines en Europe, le général Chris Cavoli.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé hier jeudi le gouvernement Biden à lever les sanctions économiques contre son pays et à abandonner la politique de pression maximale de son prédécesseur Donald Trump afin de raviver les chances d'un accord sur le nucléaire. Nathalie Barge.
Les sanctions économiques doivent être levées d'une manière efficace, a déclaré Hossein Amir Abdollahian au Forum économique mondial à Davos en Suisse. L'accord de 2015 est en suspens depuis le retrait en 2018 des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Les négociations qui ont repris sous la présidence de Joe Biden sont à l'arrêt depuis 2 mois, alors qu'un projet de texte semblait à portée de signature. Mercredi, le négociateur américain Rob Malley a déclaré que Washington ne cédera pas aux exigences de Téhéran qu'il qualifie d'excessives. Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre un réseau soutenu par les gardiens de la Révolution et la Russie, qui a facilité des exportations de pétrole iranien en violation des sanctions américaines. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, les a qualifiés de poursuite de la même politique adoptée par Trump et a déclaré que Téhéran se réservait le droit de réagir contre ces mesures en accord avec les principes du droit international.
La Minute Éco, Rosine Mounizero.
Le Ghana vient de signer un protocole d'accord d'une valeur de 69,88 millions de dollars avec la Banque africaine de développement pour accélérer le développement des énergies renouvelables et améliorer l'accès à l'électricité d'ici 2026, rapporte l'agence Ecofin. Cette initiative va bénéficier plus de 6 000 ménages, mais également des petites et moyennes entreprises et des bâtiments publics. 2 milliards de dollars ont déjà été investis dans les énergies renouvelables au cours des 10 dernières années au Ghana. L'Allemagne a mis sur pied un pont ferroviaire avec l'Ukraine pour aider Kiev à exporter ses céréales qui s'accumulent dans le pays à cause du blocus maritime imposé par la Russie, a indiqué jeudi le prochain chef des forces américaines en Europe, le général Chris Cavoli. Environ 22 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine sont en attente d'être expédiées, a déclaré le général Cavoli à des élus du Congrès. Le produit intérieur brut des États-Unis s'est au premier trimestre contracté un peu plus que ce qui avait été initialement annoncé, reculant de 1,5% en rythme annualisé, alors que les craintes augmentent de voir une récession. La deuxième estimation publiée jeudi par le département du commerce est supérieure de 0,1 point. Ce coup d'arrêt était inattendu dans un contexte de forte inflation exacerbée par la guerre en Ukraine.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La finale de la Basketball Africa League se dispute demain samedi.
Oui, elle opposera Petro de Luanda à l'US Monastir de la Tunisie. Les deux équipes se sont qualifiées pour la finale à l'issue de palpitantes demi-finales disputées à la Kigali Arena. Au Rwanda, pour Yannick Morera de Petro, ce sera une finale difficile, mais ils se donneront les moyens de la remporter.
Bien sûr, ce sera difficile. Chaque fois que vous irez en finale, ce ne sera pas facile. Quand les équipes vont en finale, elles essaient de gagner. Donc, peu importe celui qui va en finale, jouer contre nous sera un jeu d'adultes qui se battront de la première minute à la dernière minute. Donc, tout le monde doit travailler dur. Celui qui est chanceux pendant 40 minutes gagnera le match.
Yannick Morera, joueur de Petro de Luanda.
La finale de la Ligue des Champions ce samedi à Paris.
6 800 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité de cette finale qui opposera le Real Madrid à Liverpool. Des Africains, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joël Matip. Les autorités disent s'attendre à 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool sans bien pour la finale et qui devraient suivre le match dans une fan zone prévue par la préfecture de police. Une seconde fan zone est réservée aux spectateurs espagnols avec bien. Ensuite, ces derniers seront invités à rejoindre le Stade de France.
La Fédération canadienne annule le match amical controversé Canada-Iran.
Ce match devrait opposer le Canada à l'Iran le 5 juin à Vancouver. Cette rencontre entre les deux équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar a déclenché une polémique au Canada 2 ans après qu'un avion de ligne transportant notamment des ressortissants canadiens a été abattu par erreur par la défense anti-aérienne iranienne peu après son décollage à Téhéran. Le premier ministre Justin Trudeau a récemment déclaré que le match n'était pas une très bonne idée. Le 8 janvier 2020, le vol PS752 Téhéran-Kiev de la compagnie aérienne Ukraine International Airlines s'était écrasé, tuant les 176 personnes à son bord, dont 85 citoyens ou résidents permanents canadiens. Les forces armées iraniennes avaient reconnu 3 jours plus tard avoir abattu l'appareil par erreur. L'association des familles des victimes du vol PS-752 avait demandé à Canada Soccer d'annuler le match.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le ministre de la Santé a été démis de ses fonctions à la suite de la mort de 11 bébés dans l'incendie à l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabar de Tuaouan, une ville située à plus de 100 km de la capitale Dakar. Dans cette cité religieuse qui abrite la confrérie Tidiane, la colère et la tristesse sont les sentiments les mieux partagés, nous dit notre envoyé spécial à Tuaouan, Seydina Abagay.
À Tuaouan, les portes de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabar ont été très tôt fermées au public et à la presse. L'accès était même difficile pour les familles des victimes. Ces dernières, encore sous le choc, confient leur amertume et leur tristesse. Nogay Mar, grand-mère d'un des nouveaux-nés décédés.
C'est vers 21h qu'on a eu les premiers échos de l'incendie, mais il n'y avait aucun personnel de l'hôpital sur place. Les 3 personnes de garde étaient tous en bas. La première alerte est venue de quelqu'un qui était parti apporter le dîner à des malades. Il a dit qu'il y avait de la fumée. On le sentait tous, mais on ne savait pas d'où ça venait. C'est quand le feu a vraiment pris qu'ils ne sont pas venus à le localiser. Quand ils sont venus à la rescousse, il était déjà trop tard.
Du côté des populations également, l'amertume est grande. Pour les usagers de l'hôpital, comme Del Gueye, ce drame est le fruit d'une négligence totale.
Si les personnes de garde étaient à leur poste, on aurait pu éviter ce drame. Donc la négligence est réelle. Dans cet hôpital, il y a un problème d'accueil. Et nous, les usagers, on a vécu pire ici. Il est temps que la gestion de l'hôpital soit revue. Tout le monde s'en plaint, surtout nous, les femmes qui donnons la vie. Toute femme ayant une fois mis un enfant au monde a mal face à cette situation affreuse. Je le répète, si les personnes étaient en poste, on n'aurait pas dénombré autant de victimes.
Pour Mousli Gueye, cette situation regrettable à l'hôpital de Tuaouan n'est pas un cas isolé.
Les hôpitaux ne soignent plus, n'assistent plus et n'ont plus de compassion pour les malades. En plus, dans les hôpitaux, les gens doivent se relever à travers des équipes de garde qui se relaient. Mais dans cet hôpital, le personnel se regroupe dans la salle de garde pour faire le thé, regarder la télé et se connecter sur WhatsApp. Donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe.
Première conséquence de ce drame, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a été limogé par le président Macky Sall. Ce dernier l'a remplacé par Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui était jusque-là la directrice générale de la santé publique. Le chef de l'État a par ailleurs décrété 72 heures de deuil national à compter de ce jeudi. Seydina Abagay pour VOA Afrique. Tuaouan.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Burkina Faso, on pourrait appeler cette crise la crise du pain. Les boulangers veulent faire un passage en force en augmentant le prix de la baguette de pain. De 150 francs CFA la baguette, les boulangers veulent aller à 200 francs CFA. Le gouvernement n'est pas d'accord avec la méthode des boulangers, mais reconnaît que le prix de la farine de blé a augmenté. Aux dernières nouvelles, les boulangers acceptent de maintenir le prix de la baguette de pain à 150 francs CFA. Nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Une crise des boulangers au Burkina. La baguette de 200 grammes vendue à 150 francs CFA passerait à 200 francs CFA, soit une augmentation d'un tiers, ont annoncé les opérateurs de boulangerie. Plusieurs raisons expliqueraient cette augmentation. Faisal Kologo est un agent de boulangerie.
Et si on veut bien voir, vous voyez que tout commence par les transports. Et à travers les transports, on constate que le carburant vient d'augmenter. Et avec le carburant aussi, on vient d'entendre aussi que depuis fort longtemps, qu'il y a la Russie et l'Ukraine qui est en confrontation. Et depuis lors, il n'y a toujours pas de solution à cette cause. Tout ça résume à la crise économique. et le prix du pain augmente. Et cela, ce n'est pas le prix du pain seulement. Un peu partout, mais même le prix des denrées alimentaires et autres, etc., tout a été augmenté.
En conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement s'est montré en désaccord avec cette méthode des agents de boulangerie. Abdoulaye Tall, ministre du Commerce.
Il y a un vrai problème, mais il y a une solution inappropriée. Il y a un vrai problème parce que le prix du blé, et donc la farine de blé, et donc de la matière première des boulangers, a augmenté. Cela est lié à des facteurs exogènes, mais des facteurs mondiaux. Mais pourquoi c'est une mauvaise solution? Parce que nous avons des produits dont les prix sont réglementés. Les prix sont fixés d'accord parti entre le gouvernement, les acteurs de la filière en question, les acteurs du secteur privé, les consommateurs et les syndicats. Le problème est réel. Le souci du gouvernement, ce n'est pas de tuer une activité ou une entreprise. C'est d'aider des entreprises à se créer, à se développer, à payer des salaires et à payer des impôts. C'est ça notre objectif.
Après une rencontre hier soir entre les membres du gouvernement et les opérateurs des boulangeries, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a annoncé le maintien du prix du pain à 150 francs CFA. Certaines boulangeries qui vendaient la baguette à 200 francs CFA et qui avaient été fermées par le gouvernement seront réouvertes, a rassuré le porte-parole. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le président américain Joe Biden a signé mercredi un décret visant à réformer les pratiques de la police fédérale. Cette réforme entend créer une base de données au niveau national pour recenser les mauvaises pratiques, les procédures disciplinaires et plaintes concernant les membres des forces de l'ordre fédéral, selon un communiqué de la Maison-Blanche, qualifiant le texte d'historique. Ce décret a été signé à une date symbolique, le deuxième anniversaire du meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis. Sur l'importance de cette réforme, Abdulrahman Dia a joint à Washington la professeure Marilyn Sefocle de Howard University.
C'est un décret qui est très important. Il est d'autant plus important que le président n'a pas pu obtenir une résolution qui soit bipartisane, simplement parce que les républicains ont bloqué toute tentative de réformer la police. Donc le président Biden, il a pris le taureau par les cornes, il a décidé de signer un décret pour justement commencer déjà le processus de réforme de la police.
La réforme met l'accent sur, disons, la pratique de la désescalade pour limiter un peu également le recours à la force lors des arrestations. Vous pensez que c'est un pas important?
Oui, c'est un pas extrêmement important. Le décret met l'accent sur la désescalade, mais aussi sur le fait qu'il doit y avoir absolument sur le fait d'établir une base de données avec tout un listing des policiers qui se seraient comportés de façon non professionnelle.
Quelle serait la réaction de la police pour vous?
Alors, vous savez, les États-Unis, c'est un pays extrêmement vaste, donc les réactions vont dépendre évidemment des différents États, des différents comtés, des différents lieux. Dans certains cas, ce sera évidemment très apprécié d'ailleurs.
Certains quand même se posent la question de l'impact de cette loi, quand on sait que les forces de sécurité, les forces de police fédérale ne sont pas toujours impliquées dans ces incidents. La majorité de ces incidents impliquent les polices locales.
Oui, alors les polices locales, évidemment, comme je le disais auparavant, cela va dépendre de l'État, cela va dépendre évidemment de la juridiction, cela va dépendre de la tendance politique même de l'État. Donc dans certaines juridictions, qu'il s'agisse d'États par exemple à majorité démocrate, je pense que ce sera suivi volontairement.
C'était la professeure Marilyn Sefocle de Howard University. En France, le 76e Festival de Cannes bat son plein. Les stars, réalisateurs et équipes techniques foulent le mythique tapis rouge de la ville balnéaire française. Alors que Mahamat Saleh Haroun était en compétition pour la Palme d'Or l'année dernière et que Mati Diop avait remporté le Grand Prix pour l'Atlantique en 2019, cette année aucun réalisateur africain n'est en lice pour remporter la prestigieuse récompense. Claire Morin-Gibour a pu joindre le délégué général du FESPACO, le célèbre festival burkinabé, qui vient de passer une semaine au festival de Cannes, pour nouer des contacts et voir des films. Écoutons Moussa Alex Sawadogo.
Vous savez que lorsqu'on est, responsable, pour ne pas dire le délégué général du FESPACO, il est plus qu'important d'être à un événement comme le Festival de Cannes, qui est un festival international, qui est un festival aussi qui donne des opportunités à des directeurs comme moi, tous ceux qui travaillent dans le cinéma, et dit être pour faire, disons, entre autres, de bonnes affaires. Et nous, on était, j'étais avec quelques collaborateurs au FESPACO. D'abord, nous étions pour organiser une conférence de presse du FESPACO pour pouvoir présenter les acquis de la dernière édition du FESPACO et aussi pour pouvoir rencontrer les partenaires qui soutiennent et qui aimeraient bien soutenir aussi le FESPACO. Et en trois points, c'était pour nous aussi important d'y être parce que pour le prochain FESPACO, nous comptons développer les plateformes numériques et c'est là qu'on rencontre vraiment tous les grands décideurs de cette branche du cinéma.
Particulièrement dans cette édition, on a l'impression que l'Afrique a été un petit peu oubliée de la sélection des films ou des réalisateurs qui sont présents dans le jury. Est-ce que ça a été aussi votre sentiment ?
Moi, personnellement, que ce soit la présence ou non, la présence, disons, cette année des Africains à la compétition officielle, moi, personnellement, je ne trouve pas un problème. D'abord, il faut qu'on reconnaisse que le Festival de Cannes, c'est un festival international du cinéma et pas un festival qui est axé sur un continent ou sur un pays. Donc, il est important qu'il n'est pas évident que à chaque édition du Festival de Cannes, que l'Afrique soit totalement présente. Nous avons eu des années fastueuses où l'Afrique était présente aussi bien en compétition internationale ou officielle et dans les autres sections. Même si cette année, on n'a pas eu des films en compétition, disons, officielle, nous avons eu des films africains qui ont passé dans d'autres sections comme la quinzaine ou la semaine de la critique, ce qui n'est pas mal aussi. Et dans le jury aussi, vous savez comment le nombre de jurys est limité aussi. On ne peut pas toujours s'attendre en fait à ce que l'Afrique soit, disons, dans toutes ces sections. Moi, je pense que le fait que l'Afrique n'est pas présente cette année dans les différentes sections dont vous avez évoqué, moi, je pense que ça doit nous amener aussi à réfléchir, à travailler davantage aussi sur aussi bien nos productions cinématographiques, en fait, qu'on puisse être compétitif. Rien ne sert d'être présent au Festival de Cannes au niveau de la compétition. Il faut être vraiment compétitif. Des choses qui arrivent aussi à défendre aussi le cinéma africain.
Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO.
Yeah.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Nanit Talani, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou, et à la console, Diona Kamine. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.